Nous pouvons poursuivre dans la parole et nous remercions le Seigneur pour cette communion. Nous pourrions encore lire une fois Jean 17, les versets 20 à 26. Peut-être deux ou trois frères et sœurs pourraient lire ces versets. Jean 17, 20 jusqu'à 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.
Amen.
Amen. Alléluia. Ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. 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 Je leur ai fait connaître ton nom. Verset 26. C'est merveilleux. Le Seigneur nous a fait connaître le nom de son Père, sa personne. Notre Dieu veut être vu. Il veut se révéler. Il est invisible. Il a même montré toute sa gloire, toute sa magnificence dans la création. Mais cette création est tombée, malheureusement. Mais il y a une telle majesté dans la création, une telle gloire. Mais il s'est aussi révélé dans la parole. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Exode 33, le verset 18, Moïse priait, « Laisse-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui a montré sa gloire. Il est tellement bon, tellement plein de compassion, de miséricorde, mais il est aussi juste. Dans l'Ancien Testament, il y a encore tant de couvertures, de voiles. J'ai été impressionné il y a peu dans Josué, comme Akon a été puni de mort parce qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas droit. Et Dieu, Akon, même Akon a avoué sa faute devant Josué, mais il a malgré tout été lapidé. Ça paraît étonnant. C'était au temps de la loi. Et nous avons eu beaucoup, beaucoup de communion sur l'Ancien Testament durant toutes ces années passées. Mais nous devons voir. C'est dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus, que nous pouvons réellement voir qui est Dieu. Même cet aspect, le Seigneur qui nous a dit, qui nous a parlé du Père, de notre Père, même dans Matthieu déjà. Dieu est notre Père, plein de bonté, d'amour. Il nous a fait connaître le nom de son Père. Il a montré combien le Père est riche. La religion et l'hypocrisie, le Seigneur l'a exposé pendant sa vie sur la terre. Pourtant, il avait un tel cœur pour tous les hommes. Il a décrit le Père dans Jean 15, ce Père avec ses deux fils. Il a laissé partir le deuxième, mais en le laissant aller, il a attendu. Sans cesse, il a attendu qu'il veuille bien revenir. Et il a fait un tel festin quand il est revenu. Notre Dieu a un tel cœur. Si on connaît notre Dieu vraiment, alors nous pouvons vraiment regarder à ce Jésus. Jésus le révèle. Et Jésus nous montre aussi la relation qu'il avait avec Dieu. Il est un avec Dieu. Cette unité. Cette dépendance complète. Jean 5, 19, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». C'est merveilleux. Et cette communion si intime, étroite, il a tout partagé avec son Père. Quelle merveilleuse communion. Quelle union. Et le Fils a prié pour cette unité. Que cette unité entre le Père et le Fils soit aussi notre réalité. Que nous puissions entrer dans cette unité. Il y a deux critères. Dans Jean 16, nous sommes en lui et il est en nous. Jean 17, verset 24 maintenant. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il veut faire la volonté du Père. Il veut aussi que nous participions. Il veut que nous soyons là où il est. Le verset 25, il dit « Père juste, notre Père est aussi juste. Le monde ne t'a point connu. Le monde ne t'a point connu. Cette unité n'est pas selon le monde. Il y a une certaine unité dans le monde quand tout un peuple crie dans un stade pour soutenir une équipe nationale, alors oui, nos sentiments vont dans le même sens. Ou si on écoute un concert, une musique, alors nos sentiments sont unis dans cette musique. Il y a toujours un gagnant et un perdant dans les matchs de foot, et il y a aussi une fin de carrière pour un bon chanteur. Nous pouvons bien sûr avoir une certaine unité dans ce monde, un certain modèle, mais ce que Dieu fait n'est pas. Le Père ne fait pas ce genre de choses, même si nous avons tous le même enseignement. Eh bien, ce n'est pas cela que le Père demande. Une pratique, une certaine manière de faire, même une conférence, tout cela ne nous rend pas un. Cette unité n'est possible que si nous sommes dans le Seigneur et que lui, il est en nous. Et cela se passe uniquement en esprit. Comme ça a été démontré aussi ces jours. Cette unité est dans le Père et dans le Fils, et aussi entre l'Esprit et le Fils. Le Fils et l'Esprit. Et ce verset amène tellement bien cette unité en expression. Le Seigneur nous le montre, nous le révèle. C'est merveilleux. Amen. Même après la première réunion, frères et sœurs, j'avais une telle réalisation, un tel témoignage, nous avons été appelés à quelque chose de très grand, expérimenter cette unité, notre vie chrétienne, notre vie de l'Église est quelque chose d'extraordinaire, parce que nous pouvons exprimer cette unité entre le Père et le Fils dans l'Esprit, au travers de l'Esprit. Amen. C'est pas quelque chose que nous devons garder entre guillemets. C'est une bonne nouvelle et nous poursuivons dans cette bonne nouvelle du Seigneur. Le Seigneur veut nous conduire en avant. Cette merveilleuse unité est là pour que nous la pratiquions. Dans notre communion avec les frères et sœurs, peu importe où nous sommes, aussi au travail, à l'école, peu importe où nous sommes, nous pouvons transmettre cette volonté de Dieu. Nous pouvons le communiquer aux autres, simplement en demeurant dans cette communion, dans cette unité que le Père a avec le Fils et avec nous. Nous pouvons simplement le redonner à ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas maintenant de faire une grande action, nous voulons témoigner, nous voulons vous dire, etc. Non. Cette unité, comme ça a été dit, ce n'est pas juste le fait de nous réunir entre frères et sœurs. Cette unité est pratique. Ce que nous vivons, notre vie de l'Église, là, c'est là que notre unité est éprouvée. Par exemple, quand nous avons préparé les messages avec les frères, un frère a un fardeau, un autre frère communique ce fardeau. On est en train de faire déjà l'outline, le résumé. Et puis tout d'un coup, un frère dit, eh non, non, c'est pas ça le fardeau. Parfois, tu peux être choqué, tu peux être frustré. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand on est sur ce chemin d'être crucifié et d'être dans le ressuscité, là où tout est nouveau, alors ça ne fait rien. Tu peux réajuster, tu peux écouter. Et aussi, par exemple, dans la réunion de prière, tu pries. Et tu pries pour un fardeau et la prière suivante, c'est un autre fardeau qui sort. Parfois, tu peux être un peu coupé, frustré. Mais il y a souvent des choses qui viennent perturber, qui viennent déranger, qui viennent nous effleurer. Et là, l'unité, elle est éprouvée. Mais si Christ est au milieu, est au centre, alors frères et sœurs, cette unité, elle est là et elle reste, peu importe tous les dérangements. Nous avons un chemin pour traiter toutes ces choses extérieures qui viennent nous troubler. Nous ne sommes pas parfaits, mais le Seigneur œuvre et lui, il nous ramène dans cette unité. La vie de l'Église est si précieuse. Frères et sœurs, nous vivons cette unité pour le peuple de Dieu. Nous sommes dans un nouveau pays, un bon pays. Et ceux qui sont assoiffés, affamés, ils languissent après cette unité. Ils veulent recevoir de cette grâce. Et nous pouvons leur témoigner en toute humilité. Nous ne devons pas être naïfs non plus. Si dans un endroit, tu commences à être réuni avec 2, 3, 4, 5, en tant que l'Église, en tant que cette unité, alors tu vas voir peut-être que certains vont chercher à s'élever parmi nous. Peut-être ils vont faire des œuvres humaines, terrestres, et ils vont vouloir commencer des œuvres diverses. Et peut-être qu'ils vont même se soulever contre vous. Peut-être même il y aura des persécutions. Mais comme dit 1 Pierre 3,15, soyons, défendons-nous en toute humilité devant Dieu et témoignons de la vérité dans l'amour, que nous puissions transmettre cette vérité dans l'amour. Nous voulons juste tenir ferme à la vérité. Cela nous tient à cœur. Nous avons un appel élevé. Maintenant, la question vient, comme Mathias l'a dit hier. Que ferons-nous? On pourrait lire à ce sujet les versets dans Jean 15. Plusieurs choses seront encore mentionnées dans les messages suivants, mais pour le moment, lisons Jean 15, les versets 1 jusqu'à 8. Et sentez-vous libre d'intervenir pour lire ces versets.
Johannes 15, 1-8.
Jean 15, 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen.
Dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Amen. Ich bin der wahre Weinstock.
Amen. Je suis le vrai cep. Verset 1. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep. Ce n'est pas un grand tronc élevé comme un chêne ou comme un sapin. Ce n'est même pas très beau. L'écorce est assez rugueuse, mais elle est pleine de vie. Ce cep est plein de vie. Il approvisionne les sarments avec une vie riche, abondante, pour que les sarments puissent porter du fruit. Cette image nous montre aussi la grâce de Dieu. La vigne La vigne est une plante assez rebelle qui peut pousser n'importe où et dans toutes les directions possibles. En réalité, dans la nature, elle ne porte pas beaucoup de fruits, la vigne. Mais le Seigneur nous montre, dans cette image, qu'il y a un vigneron. Un vigneron, et ce vigneron, c'est notre cher Père. Dans cette image, nous voyons un aspect de ce que le Père fait. Le Père est le vigneron et il coupe sa vigne. D'une plante sauvage, il organise la plante, il la coupe de façon merveilleuse et là, elle est capable de porter du fruit. Et le vin apporte la joie au monde, aux gens. Louez le Seigneur. Il fait une telle œuvre pour notre joie finale. Il faut bien sûr retrancher, il faut émonder. Il passe aussi par des sanctions, comme il est écrit dans Hébreux 12.
Ferner haben wir unseren leiblichen Väter zu züchtigen gehabt und sie gescheut. Sollen wir nicht mehr untertan dem Vater
des Soyons soumis au Père des Esprits pour la vie et l'amour. Nous sommes soumis au Père des Esprits pour avoir la vie. Malheureusement, je n'ai pas compris la référence. Le Seigneur doit nous traiter, nous châtier. Il y a les versets 6 et 7 qui vont avec ça, mais je crois qu'il a lu ailleurs. Ce n'est pas agréable d'être coupé. Au verset 11, Hébreux 12, 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est un sujet de tristesse au départ, mais ensuite, pour ceux qui ont été exercés, c'est un fruit paisible de justice. Ce qui compte, c'est d'avoir le fruit. J'aime beaucoup écrire des versets dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien aussi, mais je me réjouis de toutes ces paroles où je vois que le Père aime qu'on porte du fruit. C'est un fruit paisible de justice pour notre Père et cela le satisfait. Le Père a envie de recevoir ce fruit. Le Seigneur nous montre le chemin. Que ferons-nous, frères et sœurs? Il le dit au verset 4 de Jean 15. Demeurez en moi. Jean 15, 4. Demeurez en moi. En demeurant en Christ, eh bien, nous porterons du fruit et nous sommes dépendants du fait de demeurer en lui. Verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Est-ce que nous ne voulons pas porter beaucoup de fruits? Séparé de moi, si vous êtes séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est étonnant. Porter du fruit commence par le fait d'être libéré de l'amour du monde, de tant de choses qui nous préoccupent. Être retranché, coupé, être ajusté en demeurant dans le Seigneur, c'est tellement important pour la prière du verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Demeurez dans le Seigneur. pour la prière, pour que le Seigneur puisse nous entendre, écouter nos prières et y répondre, nous accorder ce que nous demandons. Nous languissons après des prières exaucées. C'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Amen. Le Père aura une expression, il sera glorifié. Ce fruit est aussi un fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, on voit le fruit de l'Esprit qui est la vie, la paix, la grâce, tant d'aspects. Amen. Et si nous mentionnons cet aspect de demeurer en Christ, il y a un désir en nous. Mais ça peut aussi devenir un fardeau. Nous pouvons en arriver à des chemins de détour. On pense qu'on est éloigné du Seigneur, on commence à considérer, à être perturbé dans nos pensées. Oh, comment est-ce que je fais pour rester en Dieu? Comment est-ce que je fais pour demeurer? Et une telle parole peut devenir un fardeau pour nous. Nous avons besoin d'une révélation. Le Seigneur a dit, vous êtes un cèpe. Vous êtes les sarments attachés au cèpe. Nous sommes attachés au cèpe et nous sommes un avec ce cèpe. Nous sommes reliés. Sinon, ce n'est pas un cèpe, c'est un bout de bois sec. Mais nous devons réaliser que nous sommes déjà en Christ. Nous ne devons pas prier, Père ou Seigneur, viens en nous. Non, le Seigneur dit, demeure. Ça veut dire qu'on y est. On est là. Si je dis à quelqu'un, reste chez moi, reste vers moi. Alors, tu es chez moi, mais tu dois d'abord te déplacer pour venir chez moi, pour être dans ma demeure. Tu dois te déplacer. Mais le Seigneur, pour le Seigneur, on est déjà là. On est déjà avec lui. On est déjà en lui. Et c'est ainsi que nous pouvons demeurer. Demeurer en lui. Cette union a eu lieu. Parfois, les frères n'ont pas vu qu'ils étaient déjà dans le Seigneur. Et quand ils l'ont vu, c'était une telle libération pour eux de réaliser que nous sommes en lui, nous sommes attachés au CEP. Dans Éphésiens 2, 6, Paul dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons une place céleste. Dans la sphère céleste et spirituelle, il n'y a rien de terrestre, de physique. Là. Nous sommes dans les cieux, dans ce domaine céleste et spirituel. Alors nous sommes déjà là, ensemble, rassemblés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ne considère pas ce que tu ressens, ce que tu es. Nous sommes assis en Christ. C'est déjà accompli. C'est pas qu'il va le faire, non? Nous le sommes. Il nous a déjà ressuscités ensemble et il nous a déjà fait asseoir ensemble. Nous avons besoin d'une révélation. Sinon, nous prions, Seigneur, viens en moi. Ça ne joue pas. Prier quelque chose que le Seigneur a déjà accompli, c'est en vain. C'est en vain que nous prions comme ça. Et l'ennemi est le spécialiste pour nous dérouter et nous faire penser que, en fait, nous n'avons pas quelque chose. Satan a déjà réussi dans Genèse. Et il a dit à Ève, si tu manges de cet arbre, tu verras comme Dieu est. Et il a détourné l'attention. Il a tout de suite corrompu l'être humain qui avait été créé par Dieu. Dieu voulait que cet être humain soit à l'image de Dieu et qu'il représente sa gloire sur la terre. Et là, l'ennemi est tout de suite intervenu pour détourner l'homme de manger de l'arbre de vie. Et il commence à mentir et nous ne devons pas accepter de tels mensonges. Ne pense pas, le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est là, comme le soleil est là. Même parfois il fait sombre, il y a des nuages, mais le soleil est malgré tout là. Le Seigneur n'a pas changé. Nous sommes en Christ. Il y a encore d'autres versets qui montrent cela. Et c'est tellement important. Et comment demeurons-nous en Christ? Nos pensées, comme on le voit dans Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, 2. Attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et au verset 1, il dit, cherchez Christ. Christ. Christ est en haut. Cette communion avec le Seigneur est merveilleuse. Cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons changer de manière de penser. Amen. Plaçons nos pensées sur les choses d'en haut. Nos pensées doivent être nourries par la parole, de cette parole, de cette vérité. Souvent, je répète dans mon cœur, surtout la nuit ou le matin tôt, le psaume 73. Je suis constamment avec toi, Seigneur. Psaume 73, 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Amen. Toujours. Je suis toujours avec toi. Ça ne dépend pas de ma condition. Je suis là. Avec toi. Bien sûr, notre cœur doit prendre position. Mais nous devons réaliser que nous sommes déjà en Christ. Nous sommes en lui. Amen. Nous demeurons aussi en Christ dans les situations que nous côtoyons tous les jours. Les situations dans la vie de l'Église. Il y a tant de choses qui peuvent nous offenser, qui ne se passent pas comme toi tu penses. Tant de choses que nous vivons dans notre vie quotidienne qui viennent nous irriter, nous empoisonner, nous compliquer la vie. Tu dois faire un rapport, tu dois annoncer une mauvaise nouvelle, tu dois faire face à une maladie, tant de choses, tant de situations dans notre vie, les impôts, peu importe, toutes ces choses. Dans toutes ces choses, exerçons notre foi pour rester dans le Seigneur. Restez dans la foi. C'est une affaire de foi. Et Paul a dit quelque chose de merveilleux dans Romains 10, comme c'est aussi dans Ésaïe. Romains 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. La foi est une décision de cœur dans toutes les situations. Crois. La première réaction, c'est toujours le découragement, les soucis, la peur, toutes sortes de choses humaines qui viennent nous envahir. Nous sommes faibles, mais ne nous laissons pas attirer dans ces choses. Ne restons pas dans nos soucis, dans nos terreurs. Non, croyons, venons à la foi, venons au Seigneur. Nous pouvons prendre cette décision de croire et de nous tourner. Celui qui croit ne sera point confus. Ce verset est aussi mentionné dans Romains 9 et dans Pierre également. Il y a une telle promesse pour notre foi. Parfois, c'est sans espoir. On se dit, on combat pour des situations tellement inextricables, des choses qui viennent nous tourmenter. Mais le Seigneur nous a promis, celui qui croit ne sera point confus. Oh Seigneur, c'est un grand exercice. Notre chair ne le veut pas même. Notre chair est opposée à cela. Mais tournons-nous et lisons encore. J'ai pas compris Romain. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs, car il y a un seul Seigneur qui est au-dessus de tous, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pardon, c'est le verset 12 du chapitre 10. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur nous a montré un chemin excellent. Nous pouvons l'invoquer. L'invoquer. Comme Galates aussi et Romains 5 le disent. Invoquons le Seigneur. Jésus, quand il a prié, il a juste dit « Père, Père ». C'est toujours la première chose dans notre prière. Concentrons-nous sur le Seigneur. Ce n'est pas une forme, ce n'est pas une pratique. Soyez libres, mais la parole est claire. Si nous invoquons le nom du Seigneur, nous serons sauvés dans toutes nos situations. Tournons-nous, invoquons-le. Il y a une réaction de l'Esprit. Le Seigneur me pousse à l'invoquer dans certaines situations de vie. Il veut que nous rentrions dans cette communion. Pas parce que le Seigneur n'est pas là. Pas parce que je ne suis pas en lui, mais parce que mon cœur doit se tourner vers lui. Mon cœur doit être tourné. C'est une affaire de cœur. Et le fait d'invoquer le Seigneur, c'est une aide. Restez attachés au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est un merveilleux passage. Celui qui s'attache au Seigneur, c'est une question de cœur. Je me tourne. Ça peut être une telle aide pour nous. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Il est un seul esprit. C'est au présent. C'est maintenant, c'est en direct. Cette vérité est là. Nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Amen. Ensuite, la parole est une telle aide. Dans Luc 6, 48. Lisons ensemble.
Ja, Herr Jesus. Wer zu mir kommt, Vers 47, wer zu mir kommt und meine Worte
Luke 6,
und
40,
ich will euch zeigen, wer er gleich ist. Er ist gleich
47. Je montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Là, il s'agit d'appliquer la parole. Quand nous lisons la parole, nous creusons. En lisant la parole, nous creusons profondément. Parfois, tu n'es pas touché dans ton cœur par la parole que tu lis. Tu lis peut-être plusieurs chapitres. Et tout d'un coup, tu arrives sur le roc et tu touches le Seigneur. Et c'est une telle aide. Le Seigneur se révèle à toi. Une petite ou une grande révélation. Et le Seigneur se révèle toujours à nouveau. Régulièrement, il se révèle à nous. Mais nous devons creuser d'abord. Ça exige quelque chose de, nous, de notre part. Ce n'est pas nos concepts naturels. Tu lis un texte, mais le Seigneur est la parole. Le Seigneur est derrière cette parole que tu lis. L'Esprit est dans cette parole. Mes paroles sont esprit et vie. Et il te donne la vie quand tu touches ce rocher. Il y a une force là dans ce rocher. Nous pouvons avoir confiance dans cette parole. Le Seigneur va réaliser, va accomplir sa parole. Et la réunion en elle-même. Est bonne, mais nous avons aussi notre vie quotidienne où nous pouvons toucher le Seigneur. Et nous avons notre temps personnel avec le Seigneur. Tout cela fait partie de la vie de l'Église. Le Seigneur nous appelle à nous rassembler, bien sûr. Et ce que je communique ici dans ce message, c'est que j'ai été nourri déjà dans les premiers messages. Le Seigneur nous a déjà approvisionné. Et ce que je dis aujourd'hui, ça dépend de ce que j'ai déjà entendu. Dans les réunions, nous pouvons être remplis de l'Esprit par les chants, par les paroles, par la prière. C'est merveilleux de proclamer toutes ces merveilles de Dieu. Et cet esprit nous rend un. Et lisons encore Jean 15, 9 à 11. Sur ces versets, par rapport au CEP, on lit au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. » Le Seigneur a dit, restez en moi, demeurez en moi. Et ensuite, il appuie encore le fait de demeurer dans son amour. Ça montre aussi combien il est sage. L'amour est la chose la plus grande, la plus importante qui soit. Il n'y a jamais assez d'accent mis sur l'amour. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Le Père a tout mis dans le Fils, tout son amour. Et l'amour, cet amour conduit à l'unité. Le Seigneur nous aime. Il partage tout avec nous. Parfois, nous sommes encore des enfants et nous ne comprenons pas tous les jouets qui sont mis devant nous. Mais le Seigneur nous donne tout et nous pouvons grandir. Et le Seigneur peut nous conduire dans plus de richesses, toujours plus de richesses, toujours plus d'abondance. Amen. Et que dit-il à la fin au verset 11? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ces versets dans Jean 15 ne doivent pas nous appesantir. N'en faisant pas un poids, un fardeau. Ce sont des paroles qui doivent nous conduire dans une joie parfaite. Amen. Voulez-vous cette joie parfaite? La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons. Nous pouvons l'avoir. Nous sommes déjà en Christ. Nous sommes un seul esprit avec lui. Louez le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Amen.